Lizzie présente Des baisers parfum tabac de Tayari Jones, lu par Corinne Welland
et Clarisse Lonibot.
À mes parents, Barbara et Mac Jones, qui, autant que je le sache, ne sont mariés à personne d'autre. Une fille est une colonie, un territoire, une descendance, un portrait craché comme Athéna expulsée du crâne de son père, fruit de l'arbre, rejet et frais. Une homonyme, une projection, disciple et rebelle. Une indigène, une autre, un sujet, une étude, une histoire, une bâtarde, un continent noir et étranger. Natasha Trethewey. Première partie, d'Anna Lynn Yarborough. Chapitre 1, le secret. Mon père, James Witherspoon, est bigame. Il était marié depuis 10 ans quand ses yeux se posèrent pour la première fois sur ma mère. C'était en 1968 et elle travaillait au stand des paquets cadeaux chez Davison's, un grand magasin du centre-ville. Il lui demanda d'emballer le couteau de cuisine qu'il avait acheté à sa femme à l'occasion de leur anniversaire de mariage. Pour ma mère, c'était évident qu'il y avait un problème. On n'offre pas un couteau à sa femme si tout va bien. Je lui objectais que c'était peut-être une preuve de confiance. J'adore ma mère. Mais on n'a pas tout à fait la même vision des choses. Tout ça pour dire que la situation familiale de mon père n'a jamais été un mystère pour nous. Je l'appelais James. Son autre fille, Choris, celle qui avait grandi sous son toit, l'appelait papa, et c'est encore vrai aujourd'hui. Quand on pense à la bigamie, si on y pense tout court, on imagine une coutume primitive cantonnée aux pages du National Geographic. À Atlanta, pourtant, il y avait un groupe prenant le retour en Afrique qui possédait une chaîne de boulangerie dans les quartiers noirs du West End. Pour certains, c'était une secte, pour d'autres, un mouvement culturel. Toujours est-il que, dans cette communauté, un homme pouvait prendre jusqu'à 4 épouses. Les boulangeries ont fermé, mais on croise encore les femmes, resplendissantes en blanc, marchant modestement 6 pas derrière leur époux. Même dans les églises baptistes, on garde toujours des selles à portée de main, au cas où l'épouse endeuillée découvrirait à l'enterrement une seconde veuve éplorée et sa progéniture. Les employés de pompes funèbres et les juges savent que ça arrive tout le temps, et que ce n'est pas l'apanage des fanatiques religieux, des représentants de commerce, des sociopathes séduisants et des célibataires désespérés. C'est dommage qu'il n'y ait pas de terme pour désigner quelqu'un dans la position de ma mère, Gwendoline. Mon père est bigame, c'est ce qu'il est. Laverne est son épouse. Elle l'a trouvée la première, et ma mère a toujours respecté ses droits de pionnière. Mais est-ce qu'elle ne pourrait pas prétendre, elle aussi, au titre d'épouse? Elle détient des documents légaux, et même un polaroid attestant qu'elle est passée devant le juge, avec James Lee Witherspoon, juste de l'autre côté de la frontière, dans l'Alabama. Cela dit, je suis bien consciente que le mot « épouse » ne rend pas compte de la complexité de sa condition. Il existe d'autres qualificatifs, et lorsqu'elle est éméchée, en colère ou triste, elle n'a pas peur de les utiliser. Concubine, putain, maîtresse, amante. Ce ne sont pas les termes qui manquent, et aucun ne lui fait justice. Il y a aussi des mots cruels pour une personne comme moi, l'enfant d'une personne comme elle. Mais ils n'ont pas droit de citer dans notre foyer. Tu es sa fille, un point c'est tout. Si cette phrase a été vraie à un moment de ma vie, c'était au cours de mes 4 premiers mois, avant la naissance de Choris, sa fille légitime. Ma mère s'énervait quand je prononçais ce mot, légitime. Heureusement qu'elle n'entendait pas celui que j'employais dans ma tête, car elle se serait enfermée dans sa chambre pour pleurer. Choris est sa vraie fille. C'est comme ça que je vois les choses. En ce qui concerne les épouses, ce qui compte, c'est d'arriver la première. Pour les filles, c'est un peu plus compliqué. Le choix des mots est important. Ma mère disait « surveillance ». S'il avait su, James aurait plutôt parlé d'espionnage. Pourtant, on ne faisait de mal qu'à nous-mêmes quand on suivait Choris et Laverne sur les chemins sans ornières de leur vie. J'ai toujours pensé qu'un jour, on nous demanderait de nous justifier, de faire appel aux mots pour notre défense. Et j'étais persuadée que la tâche incomberait à ma mère. Elle maîtrise l'art de la langue. Elle sait agencer les détails les plus épineux de manière que le résultat soit aussi lisse que la surface d'un lac. C'est une magicienne, capable de vous persuader que le monde est une illusion vertigineuse. La vérité est une pièce de monnaie qu'elle fait sortir de derrière votre oreille. Je n'ai sans doute pas eu une enfance idéale, mais n'est-ce pas notre lot à tous? Même ceux dont les parents n'ont pas de seconde famille, même ceux-là ont leur part de déconvenues. Ils passent beaucoup de temps à ruminer de vieux affronts, à remâcher d'anciennes querelles. Alors vous voyez bien que j'ai quelque chose en commun avec le reste du monde. Ma mère n'a gâché ni mon enfance, ni le mariage de qui que ce soit. C'est quelqu'un de bien. Elle m'a préparé. La connaissance est essentielle. C'est pour ça qu'on n'est pas à plaindre. Oui, on a souffert, mais on était consciente de bénéficier d'un avantage singulier en ce qui concernait le plus important. J'étais au courant pour Choris, alors qu'elle ignorait tout de moi. Ma mère savait à propos de Laverne, alors que celle-ci était persuadée de mener une vie ordinaire. Ni ma mère, ni moi n'avons jamais perdu de vue cette donnée fondamentale. Quand ai-je découvert que, bien que je sois fille unique, mon père n'était pas seulement le mien? Je l'ignore. J'ai l'impression de le savoir depuis que je sais que j'ai un père. En revanche, je peux dater précisément le moment où j'ai réalisé que tout le monde n'avait pas un père à temps partiel. Je devais avoir 5 ans et j'étais à la maternelle. Un jour, Mademoiselle Russell nous demanda de dessiner notre famille. Pendant que les autres griffonnaient avec leur craie grasse ou leur crayon à mine tendre, je pris un stylo bille bleu et je représentais James, Choris et Laverne. À l'arrière-plan se tenait Raleigh, le meilleur ami de mon père et la seule personne de son autre vie que nous connaissions. Pour lui, j'avais utilisé la couleur dite « chair » car il avait vraiment la peau claire. C'était il y a des années et des années, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais mis un collier au cou de la femme, donné un grand sourire à la fille avec des dents bien carrées. Près de la marge gauche, je nous dessinais, ma mère et moi, seuls. Je noircis au feutre les longs cheveux de ma mère et ses sourcils recourbés. Sur mon visage, je fis simplement 2 grands yeux. Au-dessus, un soleil amical souriait à tous. L'institutrice s'approcha de moi par derrière. « C'est magnifique! Et qui sont tous ces gens ?» Flattée, je lui souris. « Ma famille, mon papa a 2 femmes et 2 filles. »« Je vois ?» fit-elle en inclinant la tête sur le côté. Je n'y accordais pas plus d'importance que ça. Je savourais encore la façon dont elle avait dit « magnifique ». Depuis, chaque fois que j'entends ce mot, je me sens aimée. À la fin du mois, je rapportais tous mes dessins à la maison dans une pochette en carton. James ouvrit son portefeuille gonflé de billets de 2 $. Il n'oubliait jamais d'en apporter pour me récompenser quand j'avais bien travaillé. J'avais gardé le portrait de famille, mon chef-d'œuvre, pour la fin, étant donné qu'il était magnifique. Mon père prit la feuille sur la table et l'approcha de son visage, comme s'il y cherchait un message codé. Derrière moi, ma mère m'enlaça et déposa un baiser sur le sommet de mon crâne. « C'est bien, » murmura-t-elle. « Est-ce que tu as dit à ta maîtresse qui était sur le dessin ?» demanda-t-il. Je hochai lentement la tête, consciente que j'aurais dû mentir, sans trop savoir pourquoi. « James, on ne va pas en faire une montagne, ce n'est qu'une enfant. Gwen, c'est important. Et arrête de prendre cet air effrayé, je ne vais pas l'emmener derrière la remise. » Il gloussa. « Pas ma mère. » « Elle a fait un dessin, c'est tout. Les enfants font des dessins. Va dans la cuisine, Gwen, laisse-moi parler à ma fille. » Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas rester? C'est ma fille aussi. Tu es tout le temps avec elle. Tu me reproches assez de ne pas lui parler. Maintenant, laisse-nous.
Ma mère me lâcha à contre-cœur.
C'est une petite fille, James. Elle ne comprend pas vraiment la situation.
Fais-moi confiance.
Elle quitta la pièce, mais elle ne lui faisait confiance que jusqu'à un certain point. Elle craignait qu'il ne prononce des mots qui me blesseraient à vie et me rognerait les ailes. Je le voyais sur son visage. Quand elle était perturbée, sa mâchoire mastiquait un chewing-gum invisible. La nuit, je l'entendais grincer des dents dans son sommeil, comme du gravier qui crisse sous les pneus.
« Dana, approche. »
James portait un uniforme de chauffeur bleu marine. Sa casquette devait se trouver dans la voiture, mais je voyais la marque de la bande sur son front.
« Plus près. »
J'hésitais, jetant un regard vers l'embrasure de la porte par laquelle ma mère avait disparu.
« Dana. » Tu n'as pas peur de moi, quand même. Tu ne vas pas me dire que tu as peur de ton propre père.
Malgré la mélancolie dans sa voix, je crus à un défi.
Non, monsieur,
dis-je en avançant crânement d'un pas.
Pas monsieur, Dana. Je ne suis pas ton patron. Quand tu dis ça, j'ai l'impression d'être un contremaître.